Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler des doctrines russes, de la guerre contemporaine, notamment depuis la fin de la guerre froide, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Minnick, chercheur au Centre Russie-Eurasie de l'IFRI, auteur surtout d'un livre sorti depuis quelques jours et intitulé « Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine », paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, merci pour l'invitation.
Alors, c'est vraiment un ouvrage qui nous plonge dans l'univers stratégique russe et dans des questions de doctrine et de conception de la guerre notamment. Et ce que vous retracez dans cet ouvrage, dans ce travail, c'est une sorte d'évolution fondamentale dans ces manières de penser la guerre en Russie depuis la fin de la guerre froide, avec une orientation qui est de plus en plus marquée vers des conflits et des méthodes plus indirectes, ou en tout cas qui passent plus aussi directement et centralement par les armes et par la violence physique directe. Ce qui a impliqué un profond renouvellement du logiciel stratégique russe que vous retracez. Alors, évidemment, je veux dire que dit comme ça, ça a évidemment l'air un peu paradoxal au moment où la Russie est plongée dans un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, elle-même l'Ukraine soutenue par l'essentiel du monde occidental, c'est-à-dire une guerre ouverte et interétatique comme la Russie n'en a probablement pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, on en reparlera évidemment, mais je vais juste dire tout de suite que cette espèce de paradoxe apparent prend nettement plus de sens et de cohérence si on se met à pas seulement regarder le conflit tel qu'il a tourné, tel qu'il est en train de se jouer à l'heure actuelle, mais aussi et surtout la manière dont il était probablement conçu et imaginé à Moscou et la manière dont il pensait probablement que ça allait se passer. Dans tous les cas, je vais dire que c'est un ouvrage qui, je crois, aide vraiment énormément à comprendre cette conception russe de cet affrontement. Par exemple, c'est tout bête, mais à saisir pourquoi ils appellent toujours pas ça une guerre à l'heure actuelle, mais une opération militaire spéciale. Vraiment, ça prend toute sa cohérence dans le cadre de cette manière renouvelée de penser la stratégie depuis quelques décennies en Russie que vous détaillez et dont vous montrez la genèse. J'ajoute que c'est un travail qui était donc à l'origine de votre thèse, qui permet par ailleurs de plonger dans un univers qu'on désigne souvent en Occident de manière un peu allusive, qui est celui de la doctrine ou de la science militaire russe. Alors, bon, on a déjà pu en parler un peu à ce micro avec Emmanuel Dreyfus ou avec Vincent Touret par exemple, c'est-à-dire cette espèce de milieu stratégique qui gravite autour de certaines institutions, comme l'Académie des sciences militaires, ou de certaines revues militaires où le débat stratégique se met vraiment en forme et fait parfois réellement évoluer la doctrine en Russie. Donc voilà, on l'a mentionné quelques fois, mais c'est un milieu qui est évidemment difficile à saisir et à vraiment comprendre dans son importance, qui est centrale, et dans ses subtilités depuis Paris, surtout quand on n'est pas russophone. Or ça, c'est vraiment votre champ de spécialité, votre terrain d'enquête, et le livre est vraiment une plongée dans cette espèce de galaxie de la réflexion stratégique russe. Et aussi, par là, permettre donc de comprendre la vision russe d'eux-mêmes, des États-Unis et du monde qui s'y déploie, qui est vraiment là, ou en tout cas l'une des clés qui permettent de comprendre la logique stratégique russe. Mais avant donc d'entrer dans le détail et dans la substance vraiment de cette évolution de la stratégie russe, j'aurais justement aimé peut-être que vous nous disiez un mot de ces institutions militaires, de leur importance dans le paysage stratégique russe et dans ce qu'on pourrait qualifier de... Parce que c'est un ensemble qui n'est pas unifié, mais en même temps qui est cohérent, qui discute avec lui-même. Donc voilà, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter, nous aider un peu à saisir comment ça s'organise ce débat stratégique en Russie?
Ben déjà, merci pour l'introduction qui est vraiment est très éclairante. Alors oui, en fait, les institutions qui organisent, dans lesquelles le débat stratégique russe est parfois très virulent d'ailleurs, hein, mais en tout cas dans lesquelles il est animé par des officiers supérieurs et généraux de l'armée russe, eh bien, il y en a beaucoup. La plupart, celles qui m'ont intéressé, sont celles qui gravitent autour de l'état-major général. Évidemment, l'Académie militaire de l'état-major général, des centres dans cette académie qui ont été inclus à travers les réformes de 2008, comme le Centre d'études stratégico-militaires, le CVSI, qui auparavant était directement lié à l'état-major. Et puis d'autres directions, évidemment, de cette Académie militaire d'état-major qui est vraiment centrale, hein, qui est un point de passage.
C'est quoi ? C'est un organe d'enseignement, quoi.
C'est un organe d'enseignement, de recherche. C'est un organe déjà très ancien, évidemment. Et puis qui a beaucoup de vocations.
Est-ce qu'il y aurait une comparaison, enfin, parce que ça se rassemblerait à l'école militaire, mais en même temps l'école militaire, on sait que c'est un site, mais c'est pas un organisme. Oui. Mais en termes de, enfin, ici, on est bien placé pour le dire. Ici, il y a à la fois des organismes de formation, des organismes d'enseignement comme l'école de guerre, etc. C'est ce même genre de choses qui est plus intégré, c'est différent.
Ou alors comparaison n'est pas raison, mais oui, si on devait faire une comparaison, on pourrait dire que c'est un mélange entre l'école de guerre. Peut-être un peu l'IRSEM et d'autres centres de recherche, le CDEC ici, à l'école militaire, et d'autres centres de recherche.
Le CDEC, c'est le centre de doctrine et d'enseignement du commandement.
Voilà, et interdisciplinaire en vérité, donc ça inclurait beaucoup de structures de ce type, et les revues militaires sur lesquelles je me suis appuyé émanent en fait hein, de ces institutions. On pourrait aussi citer l'académie, l'ancienne académie Frunze, qui est l'académie interarmes aujourd'hui, et qui aussi contribue énormément à la réflexion stratégique. Il y a quelques académies comme ça qui sont, comment dire, très fécondes en termes de théorie et de production doctrinale. Et au fond, ces revues théorico-militaires, comme Vojenaya Musl, qu'on pourrait traduire comme pensée militaire, ou le Viesnik Akademie Vojennych Nauk, qui est le bulletin de l'Académie des sciences militaires russes, et qui sont en fait deux revues vraiment fondamentales, pour des raisons différentes d'ailleurs. L'une qui est bon, une revue vraiment essentielle, historique, la revue de l'état-major général, la revue théorico-militaire, VM, hein, Vojenaya Musl. Et l'autre qui est moins lié au ministère de la Défense, mais en apparence en fait, hein, puisque cette revue, le bulletin de l'Académie des sciences militaires, a été fondée par un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un grand théoricien militaire soviétique puis russe, qui a occupé des postes de commandement importants, qui est Mahmoud Garayev.
Mais alors, on en reparlera de Mahmoud Garayev, parce que c'est un personnage qui est tout à fait central de l'évolution que vous décrivez. Mais du coup, est-ce qu'on dirait que... En fait, la question que ça pose, c'est la question de la vivacité et de la publicité de ces débats. Enfin, je ne sais pas si... Il n'y a probablement pas vraiment d'équivalent en France, peut-être aux États-Unis par certains endroits. Mais du coup, pour reprendre un peu du coup, le titre de votre ouvrage, est-ce qu'on dirait qu'on a une culture stratégique russe vraiment formée, intégrée, qui apparaît à travers ces choses-là, ces institutions-là ?
Oui, tout à fait. Et une culture stratégique qui, évidemment, n'est pas statique, qui change, qui est faite, bien sûr, de structures, de rapports, d'idées, de croyances renouvelées, anciennes, qui mutent. Et effectivement, vous parliez de la spécificité de cet ensemble. Et oui, mais j'irais même plus loin, en vérité, dans la littérature militaire russe, dans la production intellectuelle militaire russe, on peut tomber sur des débats, évidemment, très virulents, entre des officiers supérieurs et généraux qui sont tous docteurs. Alors après, on pourrait parler de la qualité hein, de cette formation, mais en tout cas, ils sont en majorité, parce que dans le livre, hein, j'ai produit un tableau biographique des auteurs sur lesquels je me suis appuyé, environ un peu plus de 260. Avec une synthèse évidemment de leurs caractéristiques, donc leur âge, leur grade, leur affiliation, leur formation, etc. Et en fait, ils sont la plupart du temps docteurs en sciences militaires, qui est une science qui n'existe pas en France, en sciences techniques, sciences de l'ingénieur, et puis aussi beaucoup de philosophes, formation doctorat en philosophie, doctorat en histoire, Alors, au-delà de ça, il y a aussi des critiques très importantes qui sont formulées à travers ces revues, à travers ces supports de la production intellectuelle militaire russe, dictionnaires, encyclopédies, des discours d'officiers militaires russes, etc. Des critiques très dures hein, contre le pouvoir politique qui, honnêtement, serait, enfin, à mon avis, très difficile à produire en France. L'éditeur n'accepterait jamais de les éditer, tout simplement. Je pense à la Revue de Défense Nationale, par exemple. Je ne verrais pas la Revue de Défense Nationale publier une critique, et parfois d'ailleurs des critiques très grossières hein, de la direction russe, parfois très complotistes, très conspirationnistes, mais parfois beaucoup plus rationnelles.
C'est ce qui fait le charme de la littérature russe,
oui,
parfois.
Voilà, exactement. Mais parfois beaucoup plus rationnel, très dur, hein, je me souviens de... vous avez très bien lu le livre, donc vous voyez Ryaboshapko, Fomin, qui sont des anciens du TCVSI, puis qui sont des officiers supérieurs généraux de l'armée russe, qui parlent, qui critiquent, hein, qui fustigent les oligarques qui parasitent, je cite, hein, qui parasitent sur le pipe. Voilà, il y a des critiques très dures. Évidemment, Poutine peut parfois être qualifié d'agent étranger, hein, d'agent de la CIA, presque, on est presque à deux doigts de ça parfois. Dans des revues dont le board éditorial, il faut quand même le dire, est composé de Gerasimov, des principaux, donc, qui est le chef de l'état-major général, et des principaux chefs.
Qui est le chef d'état-major général, et c'est peut-être utile de rappeler à ce stade-là qu'il a aussi et surtout été directeur de l'Académie militaire, de l'Académie des sciences militaires à une époque. Et que donc on voit bien que c'est pas, ça montre un peu la centralité de cette institution-là.
Alors c'est intéressant parce qu'en fait l'Académie des sciences militaires, elle a donc été fondée par Gariev, sanctionnée par un décret de l'État russe en 95. Lui, dans son présidium, Gariev, il a mis des vétérans, il a mis des gens qui après seront très importants, très connus. Et les chefs d'état-major de l'armée russe, voire les ministres de la Défense, venaient annuellement faire leur discours, un discours théorique, important, généralement en janvier, fin janvier, début février, à l'Académie des sciences militaires russes, devant Gariev et le présidium de cette académie. Et quand Gariev est décédé en 2019, effectivement, Gerasimov a pris la suite quelques mois après, peut-être un an après, et en fait, il a pris sous son aile cette académie, il en est devenu le directeur, alors que ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on parlait justement de...
Mais alors qu'il était déjà chef d'état-major, c'est ça ?
Alors bien sûr, il était déjà chef d'état-major.
Je me suis planté dans la chronologie, mais en fait, du coup, l'académie a été en quelque sorte rattachée directement à l'état-major.
En fait, voilà, en devenant le directeur de cette académie a d'ailleurs probablement perdu ce qui faisait son sel, c'est-à-dire... une production théorico-militaire évidemment très intéressante qui sûrement va continuer, très, très instructive, mais parfois vraiment très très critique et j'allais dire, mais qui va peut-être s'estomper. Et encore, on voit que dans le présidium, Gerasimov a gardé des gens qui vraiment ont traîné dans la boue, je pense à Korabelnikov, je pense à d'autres gens comme ça, qui ont traîné dans la boue le pouvoir politique russe, soit parce qu'il n'est pas assez extrême, soit parce qu'il est, je sais pas, il vend les ressources étrangères de la Russie, etc. Et en fait, c'est d'ailleurs dans l'introduction du livre, quand je parle de ces deux revues, il y en a d'autres que j'utilise plus sporadiquement, mais celles-là sont vraiment centrales. La différence, c'est que le VAVN, donc le bulletin de l'Académie des sciences militaires, avait une forme d'indépendance. Que VN IMS n'avait pas en vérité. Mais on verra que c'est plus complexe que ça. Voilà.
Mais alors justement, donc là on a un peu une sorte de tableau général de ce panorama stratégique. Mais donc votre livre vraiment, il parle de ce tournant, de la manière dont cette stratégie russe, elle a été repensée depuis l'effondrement de l'URSS globalement, dont il y a des vraies évolutions doctrinales et stratégiques qui se voient dans tout ça, et puis mais qui infusent à tous les niveaux. Mais justement, pour comprendre cette évolution de cette stratégie et ce tournant, il faut peut-être commencer par placer le tableau initial, qui est celui du paradigme, de la réflexion stratégique, disons, soviétique, pendant la guerre froide globalement, enfin, voilà, qui se stabilise à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout dans les années 60, et qui continue jusqu'aux années 90. Et donc, ce que vous indiquez, c'est que cette conception soviétique de la guerre, c'est vraiment une conception de la guerre et de la stratégie très axée autour de la confrontation armée, la guerre pure et dure, la force militaire, des canons, des gens qui meurent, etc. Ça, c'est la guerre. Et voilà, parce que c'est axé, je vous laisse le détailler, mais il y a d'une part le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, de la grande guerre patriotique dont on sait, dont on dit souvent qu'elle est extrêmement matricielle pour la stratégie, mais même pour la psyché russe d'une manière générale. Et puis par ailleurs, d'une lecture assez marquée, assez particulière de Clausewitz aussi.
Oui, oui, tout à fait. En fait, la pensée militaire, ce qui m'a intéressé, d'ailleurs, le livre s'ouvre là-dessus. Il s'ouvre avec un livre qui avait été publié, enfin, je veux dire, dont la, qui avait été dirigé par le maréchal Sokolovski, qui avait été chef de l'état-major. Et ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est la façon justement dont il définissait la guerre. Il y a une façon beaucoup plus raide à partir de ces années-là, début des années 60. De définir la guerre. En fait, pour Sokolovski, la guerre, c'est la lutte armée, point final. Ceux qui essayent d'introduire dans le concept de guerre des réflexions sur la lutte non militaire, sur les luttes militaires indirectes, les luttes non armées en général, sont au fond des formes de, soit des complices stupides de l'Occident, l'Occident qui a, en fait, si on en croit Sokolovski, hein, l'Occident a quasiment demandé à Lidl-Hart de produire son ouvrage pour tromper l'Union soviétique. Et voilà, enfin, des gens.
Basile Lidl-Hart, rappelons que c'est un personnage par ailleurs compliqué dont l'œuvre serait à relire avec des pincettes, mais qui est notamment l'un des théoriciens, en tout cas on en a fait un des grands théoriciens de la stratégie indirecte dans la seconde moitié du XXe siècle. Je dis parce que c'était un journaliste et il aurait bidonné un certain nombre de choses. Enfin bon, peu importe. La figure de Lidl-Hart est problématique, mais en tout cas il est resté comme une sorte d'emblème de la stratégie indirecte, voire les stratégies de guérilla d'action. Enfin bon, bref, de penser les conflits autrement que ce qu'on appellerait aujourd'hui de la haute intensité. Ça plaisait pas à Sokolovski.
Tout à fait, ça plaisait pas du tout à Sokolovski. Et en fait, Lidl-Hart, c'est intéressant. En fait, vous avez raison dans votre examen critique de la figure de Lidl-Hart, mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il est un symbole de l'approche indirecte, de la stratégie indirecte. D'ailleurs, ils n'arrivent pas trop à faire la différence entre stratégie et approche indirecte. Ils confondent un peu, grossièrement, pour le dire comme ça, d'ailleurs, je le dis comme ça dans le livre, ils confondent un peu la vision de Lidl-Hart et celle d'André Beaufre, qui est un théoricien militaire français, et qui lui a évidemment théorisé la stratégie indirecte, mais qui l'entendait de façon différente de Lidl-Hart. Mais bon, il mélange un peu tout ça, et on aura l'occasion de parler de la qualité de leur production, justement, peut-être un peu après, mais. Effectivement, donc cette pensée militaire soviétique, elle est essentiellement tournée, axée autour de la lutte armée, les définitions de la guerre qui sont produites à l'époque, sanctionnées évidemment par Sokolovski, mais par plein d'autres. En fait, Sokolovski, il rédit un peu le concept, mais il y avait des débats depuis très longtemps en fait sur le concept de guerre en Union soviétique, déjà dans les années 20, les questions, la façon dont le marxisme-léninisme s'imbriquait avec la façon de faire la guerre, etc. Il y avait l'idée que soit c'était un art, soit c'était une science, soit un peu des deux. Et puis au bout d'un moment, dans une réunion, il me semble que c'était Trotsky qui avait dit qu'il n'y avait pas une manière marxiste-léniniste de réparer une serrure ou de lasser ses souliers. Donc en fait, il y a beaucoup... Et ces débats, c'est très intéressant, parce que ces débats des années 20 continuent dans la pensée militaire russe post-soviétique. Et ça, c'est très intéressant. En fait, le marxisme-léninisme, c'est un dilemme qui a été repéré déjà dans les années 50, à l'époque où justement Sokolovski impose cette vision et d'autres. Nous sommes tous marxistes, mais nous avons une position différente sur la centralité de la lutte armée. Alors d'où ça vient, en fait, tout ça? Ça vient du fait que Lénine a adoubé la vision clausewitzienne de la guerre dans une certaine mesure. Alors, il a essayé de bricoler ça artificiellement en prétendant, alors qu'il y a des études le mettent en doute, hein, en prétendant que Clausewitz s'est appuyé sur la dialectique hegelienne, et donc forcément entre Hegel hein, et les marxistes, il y a une grande histoire d'amour, mais une histoire de haine aussi, puisque apparemment Hegel marchait sur la tête et il fallait le remettre sur ses pieds, enfin en tout cas sa dialectique. Et donc en fait, par Lénine... Il y avait, de toute manière, Lénine a comment dire, officialisé le fait que la théorie militaire soviétique devait s'appuyer sur les conclusions de Clausewitz. Bien sûr, Lénine tronque les conclusions de Clausewitz, notamment la continuation de...
C'est ce que j'allais dire, c'est le problème de... Enfin, c'est comme tous les textes sacrés, en fait. Il faut et Clausewitz, c'est tout à fait un texte sacré de ce point de vue-là. Il faut l'interpréter et il faut négocier avec le texte pour qu'il ait du sens au quotidien. Et c'est une vision, c'est une interprétation possible. Ce qui est, enfin, Clausewitz, on peut trouver aussi tout à fait Clausewitz, qui, vous le citez d'ailleurs dans le bouquin, qui à un moment écrit que la guerre a une nature caméléonienne, c'est pas facile à dire. Pas tellement plus que Clausewitz d'ailleurs. Donc on pourrait trouver aussi tout à fait des choses en sens inverse dans Clausewitz. Mais dans tous les cas, on a, au cours de la guerre froide, cette espèce de doctrine, de corpus un peu sévère, un peu fermé, un peu verrouillé, qui revient à dire que la guerre, c'est comme ça, c'est des canons de l'affrontement direct, et c'est pas autrement, et le reste c'est éventuellement les trucs du KGB si on veut, mais c'est pas la doctrine, c'est pas la stratégie russe, quoi.
Non, non, mais tout à fait, et en fait l'adoubement de par Lénine de Clausewitz, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une figure tutélaire et que forcément elle est... Et, mais le problème c'est que de... Si vous voulez, de la vision, de l'adoubement de cette, de la principale maxime de Clausewitz, la continuation de la politique par d'autres moyens, les militaires.
La guerre et la continuation
voilà,
de la politique.
Voilà. Les militaires soviétiques, eux, vont interpréter cette, cet examen, enfin, en tout cas, cet adoubement par Lénine, je sais pas trop comment le dire autrement, ils vont l'interpréter comme Lénine à adhérer au fait, à l'idée que les moyens violents dont parlait Clausewitz étaient violents et donc, donc armés, car la violence n'est qu'armée. Donc en fait, il y a des ponts comme ça qui sont faits, et à la chute de l'Union soviétique, dans les dictionnaires, les encyclopédies militaires officielles, etc., on a purgé les éléments purement idéologiques, mais Clausewitz est resté au centre. Si bien qu'on peut toujours se demander si, et je pense que c'est le cas, j'en parle dans deux chapitres dans la thèse, dans le livre, pardon, en fait, on peut se demander si citer Clausewitz, c'est pas citer Lénine aussi pour eux. Ça fait moins bien, ça fait peut-être moins sérieux dans la littérature post-soviétique, de russe post-soviétique, de citer Lénine, et donc on cite Clausewitz. S'attaquer à Clausewitz, c'est évidemment être pareil, peut-être un peu anti-léniniste, anti-marxiste, anti-marxiste-léniniste. Et c'est la raison pour laquelle les révisionnistes que j'évoque dans la thèse, qui sont des officiers supérieurs généraux qui veulent réviser le concept de guerre justement pour dépasser cette espèce de dogme militaro-marxiste, eh bien, eux-mêmes, on s'appuie systématiquement sur Clausewitz. Ce qui après se perd d'ailleurs. Les révisionnistes s'appuieront moins sur Clausewitz. Mais au tout début, dans les années 90, les pères fondateurs du révisionnisme, Bortchev, Goulin, Dremkov et Andreev, disent « Mais regardez, Clausewitz, il disait ce qu'on dit. » Et vous avez raison de rappeler que c'est une vision... L'idée que Clausewitz ne misait que sur la destruction, l'effusion de sang, etc., ça a été énormément, par la littérature occidentale, ça a été énormément critiqué, Basford, Colson, etc. Mais eux ne s'intéressent pas à ça. Les militaires russes ne s'appuient pas sur ces études-là.
Alors c'est intéressant parce que du coup, il y a une relecture, en tout cas une prise de distance avec le corpus marxiste-léniniste qui est évidemment toute relative. C'est des gens qui ont grandi qui ont grandi et qui ont été formés sous l'URSS. Donc on n'abandonne pas un logiciel comme ça en une journée, ni une semaine, ni un an. Mais donc il y a ça. Mais là où c'est intéressant pour la question qui vous intéresse, c'est-à-dire de passer de la guerre à l'approche indirecte, aussi l'idée qu'il y a des confrontations qui soient non violentes, c'est que ça arrive dans quel moment ? Ça arrive à la fin de la guerre froide. Donc la question c'est, comment est-ce qu'ils relisent la fin de la guerre froide ? Est-ce qu'ils se disent, parce que puisqu'on appelle ça la guerre froide, c'est que, en tout cas en Occident, on a conçu que ça pouvait être une guerre même sans effusion de sang. Est-ce que en Russie c'est quelque chose qui pénètre, que c'est quelque chose qu'ils se disent, bah en fait peut-être que si on, à force de se concentrer sur les canons, c'est peut-être qu'on a perdu de vue certains autres éléments qui peuvent expliquer in fine ce qui est soit un effondrement, soit une défaite de l'URSS selon comment on le lit. Voilà, comment est-ce que eux interprètent en quelque sorte la fin de cette guerre froide, si tant est qu'ils l'appellent comme ça?
Alors oui, alors effectivement, la guerre froide, c'est vraiment central dans leur, c'est central dans l'évolution de la pensée militaire russe post-soviétique, dans son infléchissement, dans sa ligne de force principale, qui est le contournement, la théorisation du contournement de la lutte armée. Effectivement, et en fait, le marxisme-léninisme en soi, on pourrait se dire considérer que l'Union soviétique était en guerre permanente contre le capitalisme. Donc en fait, et c'est étrange, il y a un paradoxe. À la fois, la science militaire soviétique disait non, la guerre, c'est d'abord et avant tout la lutte armée, et le reste, c'est effectivement, vous le disiez, hein, ça concerne les services spéciaux, ça concerne d'autres gens, ça ne nous concerne pas. Les mesures actives, d'ailleurs, c'est présent dans le dictionnaire des services spéciaux, 72, mais pas dans le dictionnaire militaire. Donc,
les mesures actives, on peut dire, c'est le terme pudique qui était utilisé pour désigner globalement les assassinats du KGB.
Oui, les assassinats du KGB, opérations d'influence, voilà.
Plein de choses.
Oui, en général, tout ce qui est un peu clandestin.
Et donc c'est prodigieux, vous êtes en train de faire un cours de marxisme-léninisme à tous les officiers soviétiques de la seconde moitié du XXe siècle.
Bah, en fait, voilà, je me suis posé la question, est-ce que ces gens-là appliquent ce que le marxisme-léninisme comportait consubstantiellement, c'est-à-dire l'idée qu'en fait la guerre, eh bien, c'est constant, c'est avec tous les moyens, tous les outils, etc. En fait, le
marxisme... Là, vous parlez des révisionnistes.
Les révisionnistes qui sont beaucoup...
Qui arrivent donc dans les années 90, et il commence à dire, bon bah voilà, ce concept bien monolithique auquel il faut pas toucher, il serait peut-être temps de le dépoussiérer un peu, parce que manifestement, par exemple, appuyé sur le constat de la fin de la guerre froide, on a peut-être loupé un truc.
Oui, tout à fait. Mais sur le marxisme-léninisme, les marxistes-léninistes adhéraient évidemment à une vision de la guerre qui est globale, qui est générale, mais elle était globalement métaphorique. Elle était métaphorique. Ce que veulent, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que vous parlez des révisionnistes, les pères du révisionnisme, les principaux révisionnistes ont eu une expérience importante dans les structures politiques de l'armée soviétique et une formation philosophique. Donc ce sont des gens qui peut-être plus que d'autres connaissent et ont baigné dans le marxisme-léninisme, en tout cas dans son acception militaire. Et effectivement, on peut se demander si c'est pas une traduction... comment on arrive à une vision métaphorique d'une guerre permanente à une vision en fait réelle. Il y a une guerre permanente réelle et il faut adapter l'armée, la structure militaire à tout ça, et cette guerre est réelle et permanente. Eh bien, vous avez tout dit, c'est la guerre froide. La guerre froide est chez eux, comme dira Danilenko, un des plus grands révisionnistes radicaux qui a influencé la pensée militaire russe post-soviétique, qui parlera de cette guerre comme étant incompréhensible et incomprise. D'autres parleront de cette guerre comme la guerre la plus mystérieuse de l'histoire, cette guerre étonnante. Et là, on en vient à Girardet, Raoul Girardet, le mythe et mythologie politique, le mythe du complot. C'est-à-dire, c'est une somme de bouleversements à la fin des années 80, début des années 90, qui conduisent à une perte de repères. Vous avez vu Vorobyov, Kisielov, des colonels généraux russes qui parlent de la chronologie marxiste-léniniste avec beaucoup de nostalgie, parce qu'il y a un sentiment de perte de repères aussi. Donc en fait, la guerre froide, elle émerge dans un moment, l'analyse de la guerre froide dans la pensée militaire russe, elle émerge dans un moment de perte de repères. Et donc, puisqu'on ne la comprend pas, puisqu'ils ne la comprennent pas, cette guerre, ils vont lui prêter une réalité surnaturelle. Voilà. Ils vont une année surnaturelle.
Mais à ça, on en reparlera, parce que ça va faire émerger évidemment toute la vision du monde que la Russie, enfin que la stratégie russe porte en elle encore aujourd'hui, qui explique beaucoup de choses sur la guerre en Ukraine et sur d'autres choses plus largement. Mais donc voilà, dans quelle mesure, combien de temps ça prend, comment est-ce que ça infuse, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a aussi des forces inverses, des tensions, des résistances? Donc il y a ces révisionnistes dont vous avez commencé à dresser le portrait, qui s'opposent donc à des traditionalistes qui, eux, bah, comme il y en a toujours, quoi, ils veulent plutôt pas trop toucher cette définition-là de la guerre avec laquelle ils ont grandi. Voilà, comment est-ce que ce combat, cette lutte intellectuelle se fait? Et à quel moment, si tant est qu'on puisse discerner un moment, est-ce que cette idée que, ben voilà, peut-être que la guerre, ce serait aussi autre chose, ce serait aussi de l'influence, ce serait aussi de la guerre, enfin bon, plein de choses sur lesquelles on reviendra, à quel moment, disons, ça finit par vraiment plus être une opinion marginale, mais être quelque chose au centre de la stratégie russe, en tout cas au centre du débat stratégique?
Alors, la guerre froide, elle est analysée par quasiment l'intégralité des théoriciens militaires russes, des officiers militaires et civils russes, comme une agression, évidemment, américaine, où sont utilisés des moyens non militaires, militaires indirects. La différence, ce qui crée une scission entre les révisionnistes et les traditionnalistes, c'est la portée qu'ils donnent à cette guerre froide. Pour les révisionnistes, la guerre froide, et d'ailleurs c'est le point nodal et introductif de leur démonstration épistémologique souvent, sur qu'est-ce que la guerre, qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que tout ça, on part de la guerre froide. Et pour eux, c'est simple, la guerre froide, c'est une guerre savamment pensée, préparée, et qui visait un seul objectif, c'est la destruction du camp socialiste, entre guillemets, hein, de l'Union soviétique, et qui a touché juste. Général Cheban disait, la guerre froide, la victoire des États-Unis pendant la guerre froide est la victoire la plus grandiose de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, il y a cette idée fondamentale.
Sous-entendu parce que victoire sans tirer un coup de feu, etc. Quoi.
Exactement. Et en fait, victoire la plus grandiose de l'humanité, qui dépasse d'ailleurs, vous avez vu dans tous ces débats entre les révisionnistes et traditionnalistes, conséquences qui dépassent de très loin, selon eux, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, de toute guerre mondiale. Et donc, les traditionalistes, eux, vont montrer peut-être plus de rationalité en expliquant que... Mais pas pour des raisons rationnelles, au fond, hein, mais disons que leur analyse de la guerre froide est plus proche de la réalité historique. Pour eux, effectivement, il y avait une forme de confrontation interétatique menée par les Occidentaux, mais elle n'a pas mené à la chute de l'Union soviétique. La chute de l'Union soviétique, elle est due à des contradictions internes, à des crises économiques internes, à une contradiction entre la société, l'économie et la direction politique. Parfois même accusé de haute trahison, évidemment, même très souvent en vérité. Donc, mais en tout cas, ils minimisent l'impact de la guerre froide, car ils ont très bien compris ce que ça impliquerait de considérer la guerre froide comme une véritable guerre. Ils ont très bien lu les modèles de guerre qui ont été développés par les fondateurs du révisionnisme au début des années 90 et ce que ça impliquerait. Puisque ça impliquerait évidemment d'élargir la notion de violence et donc de changer complètement la définition de la guerre qui est basée sur une lecture particulière de Clausewitz.
Et de changer aussi évidemment la structure de l'armée russe, puisque si on change la définition de la guerre, ça veut dire qu'il va falloir tout chambouler pour s'adapter à ces approches, disons, plus indirectes de la violence.
Mais totalement. En fait, les révisionnistes s'appuient sur trois arguments dans leur débat épistémologique. La guerre, premier argument, la guerre n'est pas une violence armée. C'est la violence tout court. Et pour le dire, d'ailleurs, il s'appuie sur Clausewitz. Voilà.
Encore une fois, Clausewitz peut servir absolument à tout.
Exactement. Deuxième idée, la violence peut être non militaire. Troisième idée, la violence armée n'est pas que directe. Donc en fait, et quelle est l'idée centrale, quelle est l'idée de fond? C'est que la lutte armée s'efface au second plan de plus en plus, voire même peut-être totalement exclu du phénomène de la guerre, du concept de guerre. C'est le fameux concept de guerre non traditionnelle, qui est d'ailleurs bien plus représentatif que d'autres concepts qu'on a avancés pour décrire la pensée stratégique russe post-soviétique. Guerre hybride, guerre de nouvelle génération, guerre d'un nouveau type. Cette guerre non traditionnelle, ce concept, il a fait l'objet de débats. C'est-à-dire que les traditionnalistes s'en emparaient, ils disaient mais c'est n'importe quoi, etc. Ils le dépeçaient. Les autres concepts, beaucoup moins. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, et c'est plus flexible. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je finis là-dessus pour ma réponse, c'est que quand Garayev, qui est un chef de file du traditionnalisme, change d'avis, je dis bien, c'est un chef de file du traditionnalisme qui défend justement une structure militaire qui veut préserver la structure de l'armée russe, mais son appareil conceptuel aussi, sa science militaire, l'objet, le contenu et le sujet de la science militaire russe. Quand il produit un article révisionniste radical, c'est-à-dire qu'il se met à parler comme les gens qu'il critiquait durement, ceux qu'il appelle ces théoriciens très agressifs, comme il dit, eh bien, il met même à les plagier intégralement, sans les citer. Et c'est très amusant.
C'est la beauté quand on est directeur. Enfin, on peut oublier des citations. Personne qui viendra vous le faire remarquer.
Et c'est très drôle parce qu'il le fait en plus. Il a quand même l'audace de le faire en plus avec précisément un auteur qui l'a publié, un des pères fondateurs du révisionnisme, qu'il a daigné publier. Voilà, 6 ans après la première publication de ce colonel russe, en faisant précéder son article d'une note éditoriale réprobatrice, en disant mais bon voilà, on le fait parce qu'on est pour la liberté d'expression, mais on n'est pas du tout d'accord. Il reprend mot pour mot son modèle de guerre et ses développements 12 ans plus tard. Et dans sa démonstration révisionniste radicale, quel est l'exemple fondamental sur lequel il s'appuie et qu'il critiquait avant la guerre froide? Il a, dans sa démonstration révisionniste radicale, Garayev s'appuie nécessairement sur une vision en fait totalement révisionniste de la guerre froide. Et donc, évidemment, mais en fait, la question c'est pourquoi ces gens ont changé. C'est-à-dire parce que les révisionnistes, ils sont arrivés un peu comme des aventuriers.
Ils ont fait basculer le centre de gravité stratégique.
Exactement. Ils ont produit ce basculement. Et d'ailleurs, ils ont fait basculer le centre de gravité stratégique beaucoup dans les années 90, ça s'est évidemment continué après dans les années 2000, et les années 2010, c'est le moment de l'officialisation progressive. Et donc voilà, ces révisionnistes sont arrivés dans un monde de traditionnalistes modérés. Après, je fais des typologies dans ces groupes, car ce ne sont pas des groupes évidemment homogènes, hein, les révisionnistes. On peut distinguer plusieurs groupes, j'en distingue au moins deux. Les révisionnistes radicaux, ce sont des théoriciens qui participent au débat épistémologique directement et qui proposent directement de modifier l'essence de la guerre, son interprétation traditionnelle en tout cas, de changer la structure de l'armée russe, etc. Et les révisionnistes modérés qui, eux, en fait, utilisent beaucoup de notions du révisionnisme, beaucoup d'idées, beaucoup de conclusions du révisionnisme, mais qui n'entrent pas dans le débat épistémologique, qui ne s'aventurent pas trop là-dedans, Et ce qui peut-être en dit long aussi sur les pressions qui s'exerçaient à cette époque, dans les années 90-2000, sur ces gens-là, pressions dont ils se sont plaints ouvertement d'ailleurs.
Alors, il faut qu'on avance, parce que donc, on voit, il y a, donc, années 90, c'est la période de formation. Les années 2000, c'est la période en quelque sorte de gestation, où vraiment c'est en train de shifter, enfin, où l'équilibre est en train de passer de l'un à l'autre. Et c'est vraiment dans les années 2010, on va y revenir, parce que maintenant on va passer vraiment à cette officialisation et en quelque sorte à la stratégie russe telle qu'elle est constituée depuis une décennie et un peu plus. Mais on peut dire que c'est probablement le moment de faire un sort à ce qu'on a souvent, la manière dont on l'a qualifié par métonymie, on a souvent appelé ça la doctrine Gerasimov. Alors on a consacré une émission entière là-dessus avec Emmanuel Dreyfus, qui est facilement retrouvable pour dire que en fait c'était pas une doctrine et que c'est pas particulièrement Gerasimov, etc. Et que on a, mais l'idée c'était classique, c'était la doctrine Gerasimov de la guerre hybride, de les Russes décident de faire aussi des stratégies indirectes et c'est Gerasimov qui a décidé. On n'a pas forcément besoin d'entrer dans le détail pour expliquer pourquoi c'est très très abusif de le désigner comme ça. Cela étant, ce que vous indiquez, c'est que ça n'est pas une doctrine Gerasimov, pour autant, ce discours, et en tout cas ce moment, donc vers 2013, ça marque vraiment, en quelque sorte, l'aboutissement de ce processus de gestation. Et en fait, ça marque le moment où, en fait, la stratégie russe prend à bras-le-corps cette idée de contournement de la lutte armée, cette idée qu'on fait la guerre par d'autres moyens. On peut appeler ça de la guerre hybride si on veut, mais la guerre hybride, c'est pas à quelqu'un de l'IFRI que je vais l'apprendre, parce que Elie Tenenbaum on a fait des pages et des pages.
Cité dans mon livre, d'ailleurs.
Cité dans votre livre. La guerre hybride, c'est une très mauvaise expression, parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Mais, quand même, il y a cette idée, au milieu des années 2010, que, voilà, il faut prendre à bras le corps ces guerres par d'autres moyens.
Oui, alors, mais tout à fait, juste pour faire un petit commentaire sur l'introduction, évidemment, Emmanuel Dreyfus a sûrement très bien expliqué la chose. Je vais apporter mon petit grain de sel. Je dirais que Gerasimov, ce qu'il dit en 2013, c'était dit peut-être de manière encore plus radicale en 1996 déjà, par un chef d'état-major qui s'appelait Samsonov, qui a donné la première définition révisionniste radicale à un tel niveau de la guerre. Donc en fait ça n'est pas nouveau en soi, non seulement ça n'est pas nouveau dans la production d'un niveau en dessous, c'est-à-dire Académie militaire de l'état-major, état-major et d'autres académies qui ont produit ces révisionnistes, qui ont permis aux révisionnistes de s'exprimer, mais même à ce niveau-là, même au niveau du chef d'état-major, ça n'est pas nouveau. Gerasimov, il est l'héritier de tout ça. Et c'est un tournant. Pourquoi 2013, c'est un tournant? Bah déjà parce que c'est la première année, vraiment la première année de Gerasimov. Et puis, comment dire, son discours est très important. Il parle de la guerre en Libye. Il dit, vous savez, nous les militaires, on pense généralement que ça ne nous concerne pas, en fait, tout ça. Les printemps arabes, tout ça, ça ne nous concerne pas, que ce sont des espèces de révoltes comme ça, etc. En fait, non, c'est une guerre. C'est une vraie guerre, c'est la guerre du 21e siècle, etc. Bon, bah ça, voilà.
Et c'est fascinant, parce que je vais le dire, mais c'est... Et ça, on va le revoir après, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'ils intègrent des concepts qu'ils projettent sur les États-Unis. Ils sont persuadés que les Américains font ça, que c'est un master plan américain, et donc ils se disent, il faut qu'on se mette à faire la même chose. Et c'est vraiment toutes les inflexions, tous les concepts que vous décrivez, dont on va reparler, c'est toujours la même chose. C'est toujours, ah bah c'est sûr, les Américains le font, quand bien même ils trouvent aucune preuve dans la littérature stratégique ou des vagues allusions, des trucs, ils sont persuadés qu'il y a un truc hyper constitué au Pentagone, et qu'il faut qu'ils se mettent à faire la même chose. Et c'est exactement ça la doctrine Gerasimov, c'est les Américains font tout ça, tout ça, tout ça, il faut qu'on le fasse.
Mais c'est tout à fait ça, on peut mieux résumer. Et je dirais en fait que ça les empêche même de voir qu'ils innovent, qu'ils ont innové. Quand on voit ce qu'a produit le ministère de la Défense française, alors c'est pas une doctrine, hein, mais les idées avancées par Thierry Burkhard, chef d'état-major général, chef d'état-major français, et puis Florence Parly en fin 2021, gagner la guerre avant la guerre. Bon, les Russes sont persuadés dans les années 90 d'être en retard totalement à la ramasse par rapport à l'Occident sur ce plan-là. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'innover, mais parce qu'ils sont obsédés par cette. Mais on aura peut-être l'occasion de le voir plus tard. Mais effectivement, ils sont obsédés par l'exemple américain et occidental, pour le meilleur et pour le pire, pour la haine et l'amour, voilà, mais on aura l'occasion. Et puis c'est une vieille, c'est traditionnel, on va dire, hein, chez les élites militaires russes et les élites politiques russes. Et je dirais juste que oui, ce point de bascule, on l'observe à plein de niveaux, hein, en 2013 avec Gerasimov, déjà lui, et puis Gerasimov finit en 2017 part parler très directement du débat épistémologique qui, à mon avis, est le plus important de la pensée militaire et post-soviétique, qui est le débat sur l'essence de la guerre. Il le dit, il met en exergue, il met la lumière sur le débat entre les révisionnistes et les traditionnalistes. Ça, c'est très clair. Et il dit, voilà, donc eux, ils veulent faire ça. Eux, ils proposent de faire ça. Les deux ont plus ou moins raison. Même si, voilà, effectivement, la violence, les moyens non militaires, les moyens et méthodes non militaires sont, dans une certaine mesure, devenus violents. Donc là, traditionnaliste, une petite gifle aux traditionnalistes. Mais quand même, les conflits militaires contemporains ont quand même montré l'importance de la force militaire. Donc on va dire qu'on va rester sur la définition de l'encyclopédie de 94. Bon, la sécurité militaire de 94, qui est une définition traditionnaliste, classique, modérée, voilà, de la guerre. En fait, il dit ça en 2017, l'année suivante.
C'est dur en même temps, quoi.
C'est un peu dur en même temps. Et l'année suivante, eh bien, la définition de la guerre, qui est officiellement adoptée, est très différente de ce qu'il a dit. Elle est très différente parce que elle met au centre de l'essence de la guerre, non plus la violence entre parenthèses armée, elle met la violence armée et d'autres formes de violence. Mais le contenu principal reste la lutte armée.
Alors justement, maintenant, c'est peut-être le moment de passer à cette stratégie russe telle qu'elle est plus ou moins constituée depuis. Et notamment, ça s'appuie, et ça c'est vraiment une très grosse partie du livre qui est tout à fait captivante, sur une vision du monde. Enfin, c'est forcément ensemble. Enfin, la stratégie découle forcément d'un constat, mais en même temps, la stratégie innerve souvent aussi le constat. Mais d'une manière générale, il y a quand même une vision du monde, de la Russie, des États-Unis et du reste, mais surtout de la Russie et des États-Unis, surtout des États-Unis et de la Russie. Et ce que vous indiquez, c'est que il y a une sorte de truc quasiment complotiste et par moments vraiment parfaitement complotiste sur la toute-puissance des États-Unis. Les Russes sont persuadés que depuis la fin de la guerre froide, voire avant, les États-Unis font absolument tout ce qu'ils veulent dans le monde, que tout obéit à un plan qui est calculé et que tout se déroule selon le plan américain sans aucun faux pas. S'il y a un truc que vous détaillez, enfin vraiment texte à l'appui, c'est fascinant quoi. Ils sont fascinés par les États-Unis et ils sont persuadés que tout ce qui se passe dans le monde provient des intentions américaines.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que cette analyse que je produis à partir des sources militaires russes, en fait, elle est assez similaire à ces conclusions que je tire. Elles sont assez similaires à celles qu'on peut tirer quand on étudie les hommes politiques russes. En tout cas, une partie, notamment celle qui dirige la Russie aujourd'hui, les Siloviki et tout. C'est un bain, en fait. C'est ce qui rapproche énormément, d'ailleurs, les milieux militaires des milieux plus du renseignement en Russie, des milieux politiques. Ce qui est intéressant, c'est une vision traditionnelle en fait qui est historique en Russie. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans quelle mesure elle a produit de la stratégie. C'est-à-dire, produit de la théorisation, comment elle s'est imbriquée dans la théorisation de la stratégie. Et en fait, tous les concepts de contournement, les concepts, notions, outils de contournement de la lutte armée, qui sont développés à partir des années 90, puis intégrés aux doctrines, et qui, sont un peu la face émergée de l'iceberg. En dessous, on a évidemment les débats épistémologiques, la guerre froide, l'exemple de la guerre froide, l'observation des stratégies occidentales, et la perception de l'environnement stratégique, la perception de soi-même, la perception de la Russie. Donc effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment cette perception de l'environnement stratégique, où l'Occident occupe une place majeure, mais pas totale. C'est-à-dire qu'ils ont des croyances centrales qui émergent de leur production intellectuelle. Je pense qu'on peut en retenir deux là pour cet exercice. C'est le monde est hostile par principe à la Russie. Donc on voit bien que ça dépasse l'Occident. Parfois, si vous voulez, il y a toute une partie où j'évoque la définition diffuse des ennemis, parce qu'on est vraiment là-dedans. Ça peut être des oligarchies, ça peut être des ennemis même pas nommés, en vérité. Les Occidentaux, bien sûr, sont sur le podium, ils occupent la première place du podium, parfois ça peut être la Chine aussi. Mais la différence entre ce qu'ils attribuent à l'Occident et ce qu'ils attribuent à la Chine, c'est qu'ils ne diabolisent pas la Chine. Ils peuvent considérer la Chine comme étant une puissance menaçante, mais ils s'appuient sur des arguments situationnels, c'est-à-dire des contradictions économiques internes, une soif territoriale, mais des choses voilà, qu'ils considèrent comme pragmatiques, logiques, mécaniques. Chez les Occidentaux, alors là, on se retrouve avec une diabolisation radicale qui est alimentée par toute l'histoire de la Russie, qui ne date pas ni de Poutine, ni de l'Union soviétique, ni même de Nicolas II. Tout ça, ce sont, on peut, voilà, je parle des idées des slavophiles. Et d'autres inspirations. Donc on retrouve tout ça dans la littérature militaire russe post-soviétique, on retrouve tout ça dans la fabrique stratégique russe post-soviétique, car tout ça est lié. C'est-à-dire que cette perception produit le contournement de la lutte armée.
Et donc, donnons-en les principaux éléments. Il y a l'idée que, y aurait un master plan pour affaiblir la Russie, pour la chasser du Moyen-Orient notamment, qui serait une volonté totalement orchestrée par les États-Unis de chasser la Russie du Moyen-Orient, par, notamment, je le fais un peu dans le désordre, mais un besoin de matières premières, ça c'est très intéressant, peut-être on peut passer un moment dessus, c'est-à-dire il y a une focalisation russe sur les matières premières, les richesses naturelles, avec l'idée que la Russie en a beaucoup et tout le monde les veut, et que les États-Unis passent leur temps à essayer de voler celle des autres.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est une manière, c'est ce que
C'est un peu triste que, on peut pas dire que l'invasion de l'Irak leur ait donné beaucoup d'or. Je veux dire, c'est aussi des trucs.
Merci,
qui...
mais oui, mais sauf que ça, c'est beaucoup cru, même en France. C'est aussi le problème, c'est-à-dire des statistiques sur les réserves en pétrole de l'Irak montreraient que c'est absurde. Mais en fait, cette idée que la détention de ressources énergétiques énormes leur procure les rend uniques, absolument uniques, et en même temps c'est cette unicité qui engendre une adversité incroyable de l'Occident à leur rencontre. Tout ça, ce sont des croyances centrales, en fait, ce sont des croyances de fond que l'idéologie marxiste-léniniste a justifiées. L'Union soviétique contre le monde, l'Union soviétique qui, par l'originalité et l'Union soviétique à l'avant-garde de la patrie socialiste, etc., attaquée par le monde capitaliste, forteresse CGG, seule contre toutes. En fait, les théories géopolitiques, ces croyances survivent aux idéologies. Ce sont des croyances de fond en Russie, qui transcendent les habillages idéologiques qu'on leur met. Vous parlez des ressources naturelles, mais c'est fascinant, parce qu'en fait, à partir des années 90, ils ne se débarrassent pas d'idéologie marxiste. c'est pas tant, c'est évident. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, et ça veut pas dire qu'ils sont, et ça veut pas dire d'ailleurs qu'ils y ont jamais adhéré. Mais ils ont une vraie capacité à cumuler des idéologies contradictoires, des corpus idéologiques contradictoires, le marxisme-léninisme, et surtout, c'est les théories géopolitiques américaines, britanniques, Speckman, Mackinder, Brzezinski. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que, et ça on le verra peut-être après, mais ils préfèrent mille fois s'inspirer d'auteurs occidentaux, et de doctrine occidentale, plutôt que de leur propre histoire, de leurs propres expériences, qu'ils généralement dénigrent fortement. Et là, on voit bien les deux sentiments contradictoires. Hein, totale absence de confiance en soi, et en même temps, parfois, sentiment de surpuissance, etc. Et en fait, les théories géopolitiques leur ont procuré, ont été un nouvel habillage à cette croyance centrale qui est que la Russie est une puissance unique, et pour cette raison, elle est attaquée.
Ouais, alors ça c'est la deuxième partie. Donc là, il y a la vision de la toute-puissance américaine, cette fascination pour les États-Unis qui est bien établie, avec en plus, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais un truc très moral, quoi. Il y a un procès moral, c'est de la fourberie, c'est des dégénérés, c'est vraiment une pathologisation, le champ, vous le relevez, le champ lexical de l'hystérie. Et là, en permanence, c'est vraiment fascinant, quoi. Et de l'autre côté, il y a la Russie qui est... c'est fascinant, quoi, qui est assiégée, effectivement, qui est martyr aussi, qui quasiment meurt et souffre, mais dans la lignée, on en parlait, de la grande guerre patriotique, quoi, pour sauver les autres, quoi. Enfin, il y a un truc très même christique, quoi, de la Russie doit faire la guerre pour sauver les autres des appétits américains, ou enfin, d'une manière générale, la Russie doit se sacrifier. Et ça, bon, ça explique beaucoup de choses à l'heure actuelle, quoi.
Oui, mais totalement. C'est une vision messianique qui, encore une fois, n'est pas nouvelle en Russie, mais qui est justifiée à des époques différentes, de façons différentes. Là, elle est justifiée notamment à travers les théories géopolitiques. À l'époque du marxisme-léninisme, à l'époque de l'Union soviétique, elle était justifiée autrement. Cette vision messianique, cette dimension messianique. Là, on est plutôt, au début des années 90 jusqu'en les années 2010, sur l'idée que la position géographique de la Russie entre l'Asie et l'Europe et l'Occident lui procure un destin effectivement divin, qui est d'unir l'Asie et l'Europe. Donc c'est très amusant, parce qu'il s'appuie sur Mackinder, Speckman pour expliquer ça, ou Brzezinski d'ailleurs, qui pour eux est un stratège depuis 50 ans, qui définit presque toute la politique américaine.
Brzezinski, et... alors on peut renvoyer aux travaux notamment de Justin Weiss, qui a fait sa thèse sur Brzezinski, qui a été, disons, l'éminence grise, une des éminences grises de Jimmy Carter, notamment, et, bon, qui est un stratège assez majeur dans la seconde moitié du XXe siècle, qui n'est pas non plus le fil rouge de la stratégie américaine.
Oui, totalement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, non seulement c'est pas le cas, mais en plus, ils font dire à Brzezinski ce qu'il ne dit pas. Donc là, en plus, on est dans une surréalité classique, d'ailleurs, en fait, en Russie. Hein. Et donc, voilà, effectivement, la Russie martyre, la Russie pacifique, la Russie qui n'a jamais rien fait de mal, qui n'a jamais rien fait à personne, qui a, lit-on dans des articles théorico-militaires, la Russie qui, l'Union soviétique, qui s'est sacrifiée, qui a permis au monde de terminer la guerre froide, sans tirer un coup de feu. Donc voilà, on lit des...
Oui, parce qu'ils auraient pu faire sauter la planète à la fin de la guerre froide, mais ils ne l'ont pas fait, c'est donc bien qu'ils se sont sacrifiés
voilà.
Pour l'humanité.
Non mais c'est vrai, cette abnégation vraiment admirable, hein, d'après eux. Mais c'est un linéament de leur culture politique, leur culture stratégique, qui est reproché d'ailleurs, hein, qui est vertement reproché de plus en plus dans les années 2000-2010. L'idée, c'est de dire arrêtons de gaspiller nos ressources pour aider la Terre entière. Parce que pour eux, ils aident la Terre entière. Hein. Pour eux, ils aident ils ont aidé le tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide le tiers-monde, contre l'Occident. Et on voit que de toute façon, toutes ces réflexions sont restées, toutes ces réflexions ont muté, mais globalement sont restées là. On les voit émerger avec la guerre en Ukraine, mais en fait, elles existent depuis bien longtemps. Le procès en nazification de l'Occident, de l'Ukraine, vous voyez que dès les années 90, l'Occident est assimilé au nazisme sans aucun problème. C'est juste que les officiels politiques ne relaient pas ça. Mais ce terreau existe, le terreau antisémite existe. Vous parliez des ressources naturelles qui sont au centre des réflexions stratégiques russes, mais oui, mais en fait ça arrive avec les théories géopolitiques, et immédiatement c'est un exutoire à tous les fantasmes qui existent depuis très longtemps en Russie, mais qui réapparaissent justifiés d'autres manières. Par exemple, Tsikhounov, le milliardaire, la fameuse théorie du milliardaire, qui est une théorie du complot qui a été intégrée à la théorisation stratégique russe.
Expliquez-nous ça.
Qui est une théorie du complot. Alors, le milliardaire, donc, c'est une théorie qui a été développée en Russie dans les années 90. D'autres disent, bon, c'est pas forcément très fiable, d'autres disent que ça a émergé en Union soviétique dans les années 80, ce qui est possible. Hein. Mais en tout cas, ça a émergé à une époque où, comment dire, l'Union soviétique était en très grande difficulté, et à l'époque du Club de Rome, on se rendait compte qu'il y avait une surpopulation terrestre et qu'il fallait peut-être penser à diminuer cette population. Le mode de pensée et les croyances des officiels militaires russes et même des théoriciens militaires russes est telle que pour eux, en fait, il s'agissait d'un plan d'extermination de tout ce qui ne fait pas partie de l'Europe, de l'Occident, ce qu'ils appellent le milliard d'or. C'est-à-dire laisser 1 milliard de personnes en Europe principalement, et tous les autres pays, tous les autres peuples devront être réduits artificiellement, soit par la famine, soit par l'extermination, et devenir ce qu'ils appellent des appendices de matière première. Donc en fait, juste des réservoirs de matière première, etc. Et ça, ce sont des vieilles peurs qui ressortent de cette façon, avec l'arrivée des théories géopolitiques. Voilà. Et donc, évidemment, tout ça est du baratin. Et dans ces théorisation du milliard d'or, qui ensuite est totalement intégrée à la théorisation stratégique dans les années, fin des années 90, début 2000, eh bien, il y a l'idée que, je cite un passage rapidement, pas assez fidèlement à mon goût, hein, mais ça va être... cette théorie du milliard d'or n'a pas pu être élaborée par des membres, par des croyants de la religion, des religions chrétiennes, ni de la religion islamique, ni de l'hindouisme. Point. Voilà. Et puis après, deux lignes après, il nous parle de Jacques Attali. Donc voilà. C'est aussi l'antisémitisme est très prégnant dans la littérature militaire russe.
Plus largement, on peut dire que tout ça, ça débouche donc sur une stratégie, et notamment sur des concepts stratégiques qui sont intéressants et dont qu'il faut peut-être détailler un peu à présent, qui sont... on l'a déjà dit, mais c'est toujours à la fois en miroir et en observation de l'Occident, notamment tout ce qui touche à la guerre informationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le pointez très bien à un moment, vous dites, mais c'est bizarre parce qu'en fait, à l'époque soviétique, ils avaient des concepts sans problème pour ça. Par exemple, les guerres informationnelles, on pourrait parler des Meskirovka, quoi. Les lecteurs de Tom Clancy de Tempête Rouge voient très bien ce que c'est. C'est donc globalement des manipulations pour faire croire à des choses, etc., etc. Bon, mais ça, ils ont les mesures actives. On en parlait tout à l'heure du KGB. Pareil, on pourrait dire que c'est des concepts qui étaient déjà là, qui étaient déjà travaillés, qui étaient déjà dans les dictionnaires, etc., etc., pour penser ce contournement de la lutte armée, ces autres manières de faire la guerre. Et en fait, ils mettent tout à la benne, quoi. Et ils réutilisent des concepts américains, mais passés au tamis des obsessions russes. Et notamment, ils ont un truc qui est fascinant. On va pas passer quand même 2 minutes dessus, parce que c'est vraiment marrant, quoi. Ils ont des trucs sur les guerres psychologiques, quoi. Qui modifient, qui moulinent sous la forme de pseudo-sciences. C'est des trucs de programmation neurolinguistique, ça confine parfois à la médiumnie ou à la télépathie, voire à l'astrologie. Enfin, il y a des trucs. Enfin, et ça, c'est deux phares pas dingues dans un coin. Enfin, quand même, qui ont potentiellement de l'influence.
Mais vous savez que parce que là, en fait, vous mentionnez la partie où justement, j'explique l'observation. C'est la partie sur l'observation des stratégies occidentales. Et en fait, effectivement. Tous les concepts de première génération, des concepts de contournement de la lutte armée de première génération et de seconde génération, sont, au moins dans l'esprit des théoriciens militaires russes, c'est ça qui compte, sont des concepts d'origine occidentale. Effectivement, il y avait des concepts nationaux, il y en avait plein. Pour compléter ceux que vous avez listés, on pourrait parler du contrôle réflexif. Et d'autres concepts, qui est peut-être plus utilisé d'ailleurs que les autres. Les concepts centraux, c'est évidemment la guerre informationnelle, mais je dirais même plus, la guerre psychologico-informationnelle qui dépasse de très loin ce que la Maskirovka ou le contrôle réflexif, même, mais dans une moindre mesure, impliquait. En fait, ce sont des guerres qui impliquent des reformatages entiers de société, de psyché, etc. La guerre psychologique en est le fondement. D'ailleurs, tout, c'est très intéressant parce que ils analysent la guerre informationnelle à travers l'exemple américain. La guerre informationnelle américaine, elle s'est beaucoup penchée sur la cybernétique, elle s'est beaucoup penchée sur les infrastructures. Et les Russes, eux, en croyant copier les Américains, vont lui donner une acception psychologico-subversive totale et massive, Il se trompe lourdement, puisque c'est pas du tout dans cette, dans ce, c'est pas du tout une acception américaine. Mais ils sont persuadés que c'est américain. Et en fait, ça
ils appellent ça donc la psychotronique.
Alors ça en dit beaucoup plus long sur eux que sur les Américains, du coup, évidemment, on l'a bien compris. Et dans cette conceptualisation de la guerre psychologique et psychologico-informationnelle, évidemment, il y a le concept de guerre. Alors pas de guerre psychologique, d'armes psychotroniques, de psychotroniques qui date.
J'ai toujours pas vraiment réussi à savoir à quoi ça correspondait dans leur esprit, mais globalement, c'est se servir de trucs plus ou moins, enfin qui leur apparaît scientifique, mais évidemment qu'ils le sont pas du tout au sens commun du terme, pour transformer une population plus ou moins en zombie. Enfin,
mais c'est tout à fait ça. Je vais vous donner des petits exemples amusants. C'est apprendre à parler à des dauphins. C'est détruire des logiciels informatiques par la pensée. C'est grimper sur les, je cite, hein, bien sûr. C'est grimper sur les murs comme un lézard, manger de l'herbe et être un super soldat qui peut résister à tout. C'est tout ce charabia qui, et vous le disiez très bien, n'est pas une affaire de deux alcooliques de l'Académie militaire d'état-major. Une direction de l'état-major, il n'y en a pas beaucoup, hein, une direction de l'état-major général russe a été créée sur les capacités extraordinaires, sur la psychotronie, qui a été ensuite dissoute par Vladimir Poutine en 2003, mais elle a quand même duré 7 ans. Il n'y a pas si longtemps, dans la pensée militaire russe, il y avait une production d'un colonel russe, bon, dont on n'a pas voulu donner trop d'éléments biographiques, mais qui visiblement est un vétéran des guerres de Tchétchénie et qui a traîné, dirons-nous, qui a eu des activités dans les services spéciaux russes, et qui lui évoque ça sans complexe et sans problème, en disant que oui, mais c'est très connu de toute façon dans les services russes, etc.
De toute façon, c'est très connu aux États-Unis.
Et justement, en fait, c'est très intéressant parce qu'ils ont développé la psychotronique dans les années 70, et l'Union soviétique avait mandaté des experts pour, justement, examiner la rationalité scientifique de cette psychotronique. Je ne vais pas donner trop de détails, voilà. Les experts, dont un du KGB d'ailleurs, avaient dit « Mais non, c'est pas scientifique tout ça, c'est pas sérieux. » Mais ils ont cru que les États-Unis misaient à fond là-dessus et avaient dépensé énormément d'argent pour développer la psychotronique qui, effectivement, c'est de la pseudoscience, quoi, tout simplement. La PNL y est associée, etc.
La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. On n'a pas besoin d'entrer dans le détail. Voilà. Ceux qui veulent pourront aller sur Wikipédia et ils passeront un moment très, probablement très long et un peu glauque, mais ça existe.
Oui. Et en fait, les États-Unis s'y sont mis aussi parce qu'ils croyaient que les Soviétiques s'y mettaient. Enfin bon, tout ça, c'est. Les États-Unis ont fini par abandonner tous ces trucs-là dans les années 90. Mais les Russes, pas du tout. En fait, c'est la grande différence. Et donc, une direction de l'état-major a été créée sur Charabia. C'était l'unité militaire à la base 10003. Et puis, on voit bien qu'aussi affleurent des croyances sur l'existence des extraterrestres, l'idée que les États-Unis ont des savoirs qu'eux n'ont pas, etc. Et donc, ça a c'est Kvachnin, c'est le chef d'état-major général de l'époque, qui transforme cette unité militaire 2003 en direction sur les capacités exceptionnelles de l'homme, etc.
Mais non, là, on se marre, parce que c'est amusant, mais on peut dire qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que la psychotronique qui est projetée des États-Unis, il y a aussi des concepts qui, eux, sont beaucoup plus travaillés, qui sont beaucoup plus structurants aussi dans la pensée stratégique russe, et qui, au point d'ailleurs qu'elles entrent complètement dans le discours russe, voire même arrivent jusqu'en Europe, parce que le discours russe est projeté jusqu'en Europe, enfin jusqu'en Occident d'une manière générale. Et la première dont il faut peut-être parler, c'est... alors ça n'entre pas, c'est ce que vous appelez les concepts de deuxième génération, c'est pas forcément dans tous les documents officiels, enfin en tout cas ça émerge depuis 10 ans au moins. Le premier dont il faut vraiment parler, c'est le concept de révolution de couleur. Ça, c'est vraiment un truc russe, quoi. C'est un truc qu'ils ont conceptualisé en pensant que c'était les États-Unis qui le conceptualisaient, et encore aujourd'hui, enfin je veux dire, c'est dans tous les discours, quoi. Ils en font un truc complètement pivotal de leur stratégie et même de leur compréhension des grandes dynamiques du monde depuis 20 ans.
Oui, totalement. En fait, les concepts de première génération, je les ai appelés de première génération parce qu'ils émergent dans les années 90 et ils sont officialisés dans les années 2000 et jusqu'en dans les années 2010. Mais c'est surtout parce que ce sont des concepts stables dans la pensée militaire russe post-soviétique qui définissent bien le contournement de la lutte armée. Je les cite très rapidement pour passer au concept de deuxième génération. C'est la guerre informationnelle et son acception psychologico-subversive. C'est la stratégie indirecte slash action indirecte, puis action asymétrique. C'est les forces armées irrégulières. C'est les forces spéciales, les forces d'opérations spéciales et la dissuasion stratégique, comprise comme étant proactive.
Par ça, on en reparlera, parce que c'est important, notamment dans ce qu'ils ont fait en Ukraine, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il faut dissuader l'action armée par des moyens non militaires.
Exactement. Et en tout cas, une vision duale, où les moyens non militaires ont une place, et les moyens militaires indirects ont une place également, mais on le verra après, effectivement. Mais les concepts de deuxième génération, alors là, évidemment, là, vous avez raison de la mentionner, la révolution de couleurs, le chaos contrôlé, et d'autres, hein, qui sont, eux, des vrais concepts, soft power, guerre hybride. Mais j'ai voulu insister sur la révolution de couleurs et le chaos contrôlé, pour une raison simple, c'est que déjà, on en a plein soupé de la guerre hybride, et de toute façon, j'aurai peut-être l'occasion de dire deux, trois mots là-dessus. Je trouve que la révolution de couleurs et le chaos contrôlé définissent bien mieux la fabrique stratégique russe, la manière dont un concept... est importé, travaillé et produit ensuite et bien fini dans la pensée stratégique russe. Donc oui, la révolution de couleurs, c'est un événement, ce sont plusieurs événements qui sont très différents, qui ont des points communs que j'évoque dans le livre, mais des points communs rationnels que les penseurs militaires russes ne relèvent absolument pas. Pour eux, ce sont effectivement des stratégies, une stratégie américaine, des actions américaines et occidentales bien pensées, bien rodées, selon un plan bien conçu. Les analystes américains, je cite, ont le don de préscience, hein, si l'on en croit les les penseurs militaires. Donc
il y a un peu tout. Il y a la Tunisie, enfin voilà, il y a l'Ukraine en 2004, les printemps arabes, l'Ukraine 2014, enfin tout ça.
Mai 68. On pourrait remonter bien. En fait, tous les événements qui sont des révolutions populaires contre la corruption, contre un gouvernement autoritaire ou totalitaire. Ça leur renvoie aussi à leur passé. Hein.
Mais mai 68, c'est plus une conception lointaine. Mais en tout cas, eux, là, c'est comme ça qu'ils interprètent des événements géopolitiques du moment de cette conceptualisation, donc les années 2000 et 2010. Et du coup, ils en font un concept qui explique la grande dynamique du monde, quoi.
La grande dynamique du monde et la grande dynamique de la stratégie, surtout. Et c'est ça qui est intéressant. Ça. Et mai 68 est casé hein, dans cet ensemble. Hein. Quand il réfléchit sur les printemps arabes, il case énormément de révolutions comme ça. Mais oui, en fait, c'est un événement devenu stratégie. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la révolution de couleurs commence à être citée dans la production intellectuelle militaire russe, dans des réflexions épistémologiques sur l'essence de la guerre, etc. À la fin...
C'est-à-dire, pour dire, il n'y a pas que la guerre avec des canons, on dit, regardez, les révolutions de couleurs, ça prouve bien que les États-Unis arrivent à faire la guerre sans faire la guerre.
Ça prouve bien qu'il y a des choses qui s'effondrent et on n'a pas entendu un seul coup de feu. Et Garayev répondra aux révisionnistes qui prétendent ça. Il leur dira « Mais tout ce qui s'effondre n'est pas le fait de la guerre. » Et il parlera des tremblements de terre et des tsunamis, etc. Donc oui, en fait, c'est l'idée que... Et puis, c'est très présent dans l'espace post-soviétique. C'est l'idée que, c'est un événement, en fait, c'est une stratégie, il l'analyse plus ou moins comme une stratégie, progressivement, et puis c'est intégré dans les doctrines, et puis c'est ensuite intégré dans le discours politique, totalement, qui le voit comme une stratégie, qui ne le voit pas juste comme un événement, mais qui le voit comme une stratégie. Et le concept de chaos contrôlé, c'est encore une autre façon, c'est deux manières dont la pensée militaire russe peut intégrer des concepts. Le concept de chaos contrôlé, c'est simple. C'est une invention pure et simple d'un concept censément américain, prétendument américain. Alors il s'appuie sur les travaux d'un diplomate américain, Stephen Mann.
Je vais dire ça, mais c'est pareil pour les révolutions de couleur, ça apparaît globalement vers quoi, 2014, 2015, enfin surtout dans les discours de Poutine. Mais je dis ça parce que le chaos contrôlé, si on veut se faire une idée de ce que c'est dans la rhétorique russe, il suffit de regarder n'importe quel discours de Poutine à peu près. C'est l'idée que, notamment autour de la guerre en Géorgie 2008, ça, que en gros ce que les États-Unis essayent de faire, c'est créer du chaos. Voilà, qui pensent plus ou moins maîtriser, et qu'il faut que la Russie donc lutte contre ce chaos contrôlé qui serait donc une stratégie américaine.
Totalement. En fait, les révolutions de couleurs, elles apparaissent dans la pensée militaire russe au milieu des années 2000, et elles sont stratégisées progressivement jusqu'à être intégrées dans les doctrines en 2010. Et le chaos contrôlé, effectivement, il apparaît à la fin des années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est que il est théorisé, il est stratégisé, hein, et en fait totalement inventé. Et qu'on le retrouve dans le discours de Poutine, et c'est intéressant parce qu'on ne le retrouve pas dans le discours de Poutine de façon anodine, on ne le retrouve pas comme il ne cite pas juste le chaos contrôlé comme ça, il parle bien de la théorie du chaos contrôlé, ce qu'on mis en avant les militaires russes, ils disent bien c'est une théorie, il y a une théorie du chaos contrôlé, il y a une stratégie du chaos contrôlé, et ils s'appuient de manière très fallacieuse comme ils en ont l'habitude, et pas forcément par malice d'ailleurs. Ils croient simplement peut-être que certaines sources ne disent pas toute la vérité, mentent un petit peu, mais eux, voilà, ils lisent entre les lignes, ils savent à peu près ce qui est dit. Donc ça ne les empêche pas de mentir, mais...
Donc en gros, ils tirent un texte d'un diplomate américain qui est important, mais qui n'est pas particulièrement central, et ils pensent lire là-dedans un truc qui provient par ailleurs de théorie physique du chaos, etc. Enfin bon, c'est un mec qui fait une analogie un peu qui vaut ce qu'elle vaut, qui est plus ou moins foireuse. Enfin, c'est pas la première fois que quelqu'un essaye de faire une analogie entre la géopolitique et des sciences naturelles. Mais pourquoi pas ? Et de là, ils en tirent l'idée que ce serait une ligne directrice de la stratégie américaine.
Oui, totalement. Mais d'ailleurs, le mélange entre théorie scientifique et théorie géopolitique, c'est un truc que les penseurs militaires russes adorent. Hein. Donc voilà, ce qui a d'ailleurs été aussi critiqué. Mais oui, bien sûr, ils inventent totalement ce concept. Ils ne s'en sont pas départis d'ailleurs. C'est un concept de deuxième génération qui dure en fait, hein. Comme le concept de guerre hybride a duré, celui de soft power aussi, celui de révolution de couleur aussi. Ce sont des concepts qui durent, mais qui ne sont pas exclusifs. Et d'ailleurs, qui sont. Ça me permettra juste de faire un petit point sur le titre de l'ouvrage. En fait, les concepts de seconde génération, vous le disiez justement, sont moins intégrés aux doctrines. Ils sont moins intégrés aux doctrines, un peu moins intégrés aux discours officiels, etc. Mais ils sont très présents et peut-être qu'à terme, ils seront encore plus déterminants. Les concepts de première génération sont vraiment stables et importants. Après, il faut penser aussi que la pensée stratégique russe, elle est flexible, elle est mouvante, etc. Pourquoi j'ai appelé ça le contournement de la lutte armée ? Pourquoi j'ai résumé en fait toutes ces pensées sur les manières indirectes de faire la guerre, sur la révision de l'essence de la guerre, etc. Pourquoi je l'ai appelé contournement de la lutte armée ? Mais c'est pour sortir, déjà ça me paraissait très cohérent, et puis c'était pour sortir aussi d'une impasse dans la recherche sur la pensée militaire russe, qui en fait... pour plein de raisons, mais je pense que la première raison, c'est que les gens qui s'intéressent à la pensée militaire russe déjà sont peu nombreux, ce qu'on peut peut-être comprendre aussi, hein, la pensée stratégique russe, et puis par ailleurs peu maîtrisent le russe, donc ils s'appuient sur des traductions anglaises, sur des sources anglaises. Bon, pourquoi pas, moi j'ai les trois quarts de mes sources sont en russe et j'ai utilisé de façon très prudente des sources anglaises traduites du russe, etc. Et souvent d'ailleurs j'avais des doubles et j'ai retrouvé des doubles plus tard, etc. Donc il y avait une barrière de la langue. Et quand on étudie des textes, voilà, quand on est au plus près des textes, des doctrines, quand on est au plus près des nuances, du vocabulaire, etc., c'est fondamental de lire ça en russe. Et en fait, on a longtemps, vous parliez de doctrine Gerasimov, de guerre hybride et tout, tous ces concepts ne sont que des nuances d'un phénomène beaucoup plus large qui est penser le contournement de la lutte armée. Ce sont des nuances, ce sont des catégories qui sont émiques, ce sont les catégories des acteurs que j'étudie, qui ne sont pas des catégories englobantes. En fait, ce sont ils font partie du problème, si j'ose dire. Ils font pas partie de la solution. Donc, le concept de contournement de la lutte armée englobe tout ça. Et c'est ma catégorie, voilà, qui me paraît plus pertinente. Et ça permettait, voilà, de sortir d'une impasse de la recherche, une impasse de plus de 10 ans sur, en fait, que fait la Russie, guerre hybride, pas guerre hybride, doctrine Gerasimov, pas doctrine Gerasimov. D'ailleurs, j'explique qu'en fait, la doctrine Gerasimov, il faudrait mieux parler de tropisme, hein, et de tropisme du contournement de la lutte armée.
Mais alors maintenant, ça nous amène, évidemment, en arrivée, j'ai eu une sorte de compassion pour vous, parce que évidemment cette thèse elle a pas commencé il y a un an, et donc vous avez rajouté probablement un chapitre à votre thèse sur la guerre en Ukraine. Mais bon, pour les auditeurs qui pensaient avoir un podcast sur la guerre en Ukraine, je suis désolé, ça arrive au bout d'une heure dix à peu près, mais en même temps, enfin ça, on en fait déjà suffisamment souvent des trucs de décryptage instantané. Bon, mais là l'idée, c'est de donner de la profondeur, et on va voir en fait que c'est très cohérent. Parce que, je l'ai dit au début, mais vous en parlez, vous donnez de la cohérence, tout ça. Donc, ce que je disais au début, c'est effectivement que ça peut avoir l'air bizarre. C'est un conflit typique de la haute intensité, au milieu de tout ce contexte stratégique que vous nous détaillez depuis une heure, sur les aspects hybrides, les aspects informationnels de la guerre, etc. On va contourner la lutte armée, et paf, on arrive dans le bourbier ukrainien, et on en est à compter les T-64 et les T-62. Ça peut avoir l'air paradoxal. Mais... et j'ai commencé à le dire, c'est parce qu'on en prend vraiment l'ultime dénouement, en tout cas le dernier en date de cette affaire, c'est-à-dire en oubliant, comme on le fait peut-être un peu trop souvent, que c'est notamment un conflit qui a commencé en 2014 au moins, cette guerre en Ukraine, et que... Enfin, guerre... Bon, bref, c'est compliqué. Mais que pendant très longtemps, de 2014 à 2021 au moins, ce que vous nous indiquez, c'est qu'en fait, ce conflit ukrainien, cette opposition avec l'Ukraine, cette tentative, enfin, même ce conflit tout à fait ouvert dans le Donbass, c'est apparu aux stratèges russes, au contraire, comme un triomphe de cette stratégie indirecte, de ce contournement de la lutte armée. C'est-à-dire, si on se replace il y a 2 ans, c'était pas la guerre de haute intensité que ça allait devenir, c'était, ben voilà, ça marche hyper bien le contournement de la lutte armée, et donc cette évolution de la réflexion stratégique russe porte tous ses fruits. Alors expliquez-nous exactement pourquoi et comment.
Ben tout à fait, en fait, déjà j'aimerais dire en préambule, et j'aurais dû le dire en fait au début, mais je le dis maintenant, allez, soyons fous, le contournement de la lutte armée, il a été exploré, examiné, il a été développé dans 2 sens. Il y a 2 volets du contournement de la lutte armée qui ont nourri un dialogue constant d'ailleurs, qui ne sont pas exclusifs dans la pensée militaire russe. Le premier, c'est la centralité des luttes non militaires, militaires indirectes et non armées, dans le processus de guerre qui doit se conclure, qui peut se conclure par une lutte armée, mais une lutte armée renouvelée, c'est-à-dire principalement à distance, mais surtout finale, décisive, brutale.
C'est-à-dire, la lutte armée, c'est le coup de grâce, mais c'est pas l'entièreté du truc.
Non, la centralité, c'est tout le reste. Et tout ce qui n'est pas la lutte armée. Et l'autre volet, c'est carrément l'idée que on peut atteindre des objectifs politiques décisifs en évitant la lutte armée interétatique. Ce qui n'exclut pas de conduire une lutte armée via des tiers. Une lutte armée via des forces irrégulières, via des ce que les Russes ont très bien fait d'ailleurs en 2014-2015. Mais en fait, ça a donné les gains opérationnels étaient réels, mais les gains politiques étaient très limités pour plein de raisons. Mais on va dire que la celle qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est que Poutine et l'état-major sont intervenus à cause d'un mirage. Ils se sont basés sur un mirage, c'est-à-dire un coup d'État nazi piloté par Washington à Kiev.
Ils ont engagé 2014.
Ils ont engagé la Russie sur ce terrain très dangereux sur la base d'un mirage. Et c'est... alors il y a eu des gains opérationnels limités quand même, mais il y en a eu. Donc ça marchait plutôt bien. On va dire que
c'est-à-dire ils avaient la Crimée, ils avaient un front, ils avaient notamment aussi le protocole de Minsk.
Exactement,
qui leur donnait l'impression de pouvoir contrôler un peu la destinée de l'Ukraine sans tirer un coup de feu, en tout cas pas eux.
Totalement, et vous avez vu que ça a été vanté dans la littérature militaire, dans la pensée militaire russe, ça a été totalement vanté, ces opérations en Ukraine. Voilà, c'est enfin l'exemple qu'il nous fallait, d'application qu'il nous fallait, etc. Donc non seulement cette expérience a conforté la théorie, mais elle a accéléré la traduction doctrinale de cette théorie, et elle a nourri la théorie en retour. Ça a été vraiment un moment important, l'Ukraine. Et effectivement, alors... comme vous le disiez, il y a un paradoxe apparent. En fait, la guerre en Ukraine aujourd'hui, je sais pas, il y a plus de 200 000 morts et blessés.
C'est ça, la question, c'est donc, là, ils avaient leur truc, bah ils avaient leur fleuron. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2021 pour qu'ils aillent à ce point-là contre leurs intérêts, en tout cas doctrinaux et stratégiques, semble-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais dire, bon, vous n'avez pas de réponse définitive parce que vous n'avez probablement pas fait de terrain avec Vladimir Poutine, mais vous avez quand même des hypothèses assez fortes sur, disons, la logique stratégique qui a pu se mettre en place et qui a pu s'accélérer à partir de 2021 et qui arrive sur une guerre de haute intensité que les Russes auraient, on le sait, mais ils n'avaient pas prévu. C'est encore théoriquement toujours une opération militaire spéciale.
Oui, tout à fait. En fait, je résumerai la chose comme ça avec un mot un peu savant, mais que je vais expliquer tout de suite. La guerre en Ukraine est une hétérotélie. La guerre en Ukraine a produit un but qui n'était pas recherché, est un but qui n'était pas recherché par... la Russie, par la direction politico-militaire russe. C'est effectivement une guerre de haute intensité, etc. Mais le plan de l'opération militaire spéciale, moi je parle de l'opération militaire spéciale, n'était très probablement pas ça. C'était même sûrement pas du tout que ça dégénère en guerre de haute intensité. D'abord parce que les forces terrestres russes étaient les plus mal nourries de tous les budgets militaires russes depuis très longtemps. Et puis parce que de toute façon, les réformes militaires russes de 2008 n'ont pas du tout préparé l'armée russe à ce type de guerre longue, large, sans s'appuyer sur la mobilisation, etc.
Mais c'est fascinant, parce que du coup, ce que vous indiquez, c'est que dans le processus qui mène à février 2022, il y a tout un truc qui pour le coup relève tout à fait du contournement de la lutte armée, c'est-à-dire on fait monter la pression, on envoie des troupes, on les montre, on pose des conditions et on essaye d'avoir... On n'a toujours pas tiré un coup de feu, enfin dans le Donbass, mais c'est autre chose. Nous, on n'a toujours pas tiré un coup de feu, mais potentiellement, on va avoir des gains politiques énormes. En plus, ça s'appuie sur ce que vous identifiez, c'était identifié comme un moment favorable parce que début de présidence de Joe Biden et tout. Et là, ce que vous indiquez, c'est que c'est juste, ça a probablement dérapé. Ça a probablement été une escalade comme c'est assez classique dans la littérature. Quoi.
Exactement. En fait, le contournement de la lutte armée a été appliqué 4 fois durant 4 séquences en Ukraine. 2004-2014, c'est une phase de pression non militaire. 2014-2021, c'est une phase de stratégie indirecte intégrale qu'on peut appeler guerre hybride, si on veut. Et là, on entre sur la phase dont vous parlez. 2021-2022, on est probablement sur une phase de dissuasion stratégique duale et proactive qui a été totalement théorisée dans la réflexion sur le contournement de la lutte armée depuis les années 2000 en Russie. Tout coïncide en fait, hein, on est vraiment là-dedans. Mais effectivement, le fait est que il est difficile de savoir quel était l'objectif de cette dissuasion stratégique. Est-ce que cette dissuasion stratégique était comme la théorisation du contournement? Je reviens aux deux volets, je les mentionne juste comme ça pour que les gens l'aient à l'esprit. Est-ce que c'était une période initiale de la guerre qui visait à tromper, à divertir le public et la direction politico-militaire ukrainienne occidentale, à les décourager, à préparer le terrain à un coup de boutoir armé final, désarmant, décisif? Vous avez vu Vorobyov, hein, 97 déjà, qui, on dirait qu'il nous fait le plan de l'opération militaire spéciale. Affaiblir. J'inviterai les lecteurs au chapitre à se référer à Vorobyov. Et puis susciter la lâcheté, susciter l'hystérie, et puis récolter, ramasser la mise. Donc, en fait, la théorisation du contournement de la lutte armée, elle se voit aussi dans cette phase de dissuasion stratégique, des ultimatums qui sont théorisés, prévus. Ultimatums, puis invitation à la négociation, menace d'invasion, menace de brutalité militaire, puis en fait, invitation effectivement au dialogue, déploiement de troupes, puis retrait des troupes, puis redéploiement, etc. La démonstration de force, démonstration de la force et de la présence militaire. Et on a vu que tous les espaces dominés par la Russie étaient intégrés dans cette dissuasion stratégique, de la Syrie à la Crimée, à l'Abkhazie, à Kaliningrad, etc.
À
la Biélorussie, à la Transnistrie, tout ça a été intégré, et d'ailleurs est ponctuellement encore utilisé aujourd'hui quand les Russes craignent une invasion ou une percée de l'armée ukrainienne. Et en fait, la question qui se pose, c'est qu'ensuite, il y a eu l'opération militaire spéciale. L'opération militaire spéciale, elle est...
Et donc ça, c'est une phase, vous en avez parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la dissuasion active, parce que pour plein de raisons qui tiennent à l'équation stratégique russe, ils sont persuadés qu'il y a le danger que, encore une fois, les États-Unis sont tout puissants, donc ils risquent de prendre l'Ukraine, bon, peu importe. Donc, il faut les dissuader, mais la dissuasion, elle est active. Donc, pour être sûr d'obtenir la paix, on va balancer toutes nos armées aux frontières de l'Ukraine, parce que c'est le bon moyen de dissuader. Et là, manifestement, ils avaient relativement mal évalué ce que ces coups de pression-là allaient faire à l'Ukraine.
Totalement. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'une préparation à l'opération qui venait, ou qu'il s'agisse d'une opération en soi, cette dissuasion. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était destinée à obtenir des concessions vraiment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils y croyaient vraiment qu'ils obtiendraient des concessions par cette application du concept de contournement qu'est la dissuasion stratégique duale et proactive? Ou alors, c'était une préparation. Dans les deux cas, de toute façon, ils se sont lourdement trompés parce que personne n'a été ni surpris. Les Ukrainiens eux-mêmes, d'ailleurs, ne croyaient pas à l'invasion, donc en fait, ils n'étaient même pas, même pas sensibles à leurs menaces. En fait, rien n'a collé dans cette histoire, et c'est pour ça qu'on peut se demander si au fond le déclenchement de l'opération militaire spéciale n'est pas l'effet d'une frustration, d'une auto-frustration de cet échec de la dissuasion. Et de toute manière, l'opération militaire spéciale en tant que telle, on voit bien qu'elle...
Ce que j'allais dire, c'est vous montrez très bien que même dans l'opération, parce que encore une fois, maintenant on voit les tanks, les tranchées, les chars d'assaut, les tranchées, etc., tout ce qu'on veut. Et ce que vous montrez, c'est que même dans le plan tel qu'on l'a vu, tel qu'il s'est manifesté, il y a que des aspects de contournement de la lutte armée.
Totalement.
C'est fascinant parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans leur doctrine, etc., il y a aussi les forces spéciales, les Spetsnaz, il y a l'idée d'infiltrer des gens parce que comme ça qu'on prépare le terrain, on peut faire des opérations de désinformation. C'est le moment où ils essayent de saisir les tours de télévision, c'est le moment des deepfakes. En fait, ils ont tout un truc de. Même dans l'opération, même dans une guerre, il y a plein de stratégies qu'on peut appeler hybrides comme on veut, indirect, contournement, qui sont censées aider le coup de boutoir que sera la colonne de chars qui va marcher jusqu'à Kiev.
Mais c'est totalement ça. En fait, j'ai résumé la chose en une phrase. Les actions indirectes dans l'opération militaire spéciale étaient censées surpasser celles de la force armée directe. D'ailleurs, on le voit, on a des documents qui nous montrent que les temps de trajet prévus par des unités russes partait du principe qu'il y allait avoir soit une très faible résistance, soit pas de résistance du tout.
Donc, et une capitulation directe.
Et une capitulation rapide, voilà, sans problème, tranquillement. Et donc, en fait, et là, on voit comment ça s'intègre à l'autre partie de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a la partie théorico-militaire qui est indissociable de la partie sur la culture stratégique, les croyances, les idées, les
obsessions
qu'ils ont.
Parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont préparé le terrain, ils ont préparé l'Ukraine.
Ah, mais ils sont totalement persuadés de ça. Et puis après, il y a toutes les logiques institutionnelles avec les services de sécurité, mais qui sont sincèrement persuadés de beaucoup de choses qu'ils racontent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit qu'ils mentent à Vladimir Poutine, etc., oui, ils peuvent mentir à Vladimir Poutine, mais ils n'ont pas une vision du monde différente, en réalité, de celle de Poutine. En tout cas, pas radicalement différente. Ils sont plutôt assez d'accord, d'ailleurs, sur le fond, en général. Ils peuvent être, en revanche, violemment en désaccord sur les manières d'atteindre les objectifs, sur les méthodes. Mais voilà. Et l'opération militaire spéciale, effectivement, une énorme subversion intérieure, mais qui date de 2004 et qui a été très grandement aggravé à partir de 2014. Des gouvernements avaient été prévus avec des collabos ukrainiens déjà présélectionnés. Évidemment, une préparation psychologico-informationnelle très intense. Ce à quoi le public russe a été soumis à partir de 2014 surtout, c'est complètement inédit. Enfin, c'est un matraquage continu des mêmes arguments sur l'Ukraine, sur les États-Unis, sur la toute puissance de l'Occident, etc. Et bien sûr des attaques cybernétiques et des projets plus d'action plus directe d'enlèvement de Zelensky, de le tuer, de tuer des membres du gouvernement, etc.
Et tout ça qui sont donc ce qu'on appelle la stratégie indirecte, quoi.
Ce sont des éléments de stratégie indirecte.
Et c'est pas parce que c'est en plein milieu d'une percée de chars que ça en est moins de la stratégie
mais
indirecte.
Mais totalement, mais en fait c'est pour ça que je parle de contournement de la lutte armée. Et en fait c'est toute la partie du contournement de la lutte armée avec une invasion de terrain. Mais vous avez vu à la fin du chapitre sur l'Ukraine, j'invite évidemment les lecteurs à se rapporter au chapitre précédent, quand j'évoque le plan de guerre type qui a été formulé par le chef de l'état-major, le chef de l'académie militaire de l'état-major, chef adjoint, et le chef du CVSI, plus important centre de doctrine et d'études stratégiques russes. Bon ben, il y a 8 étapes. La guerre traditionnelle, ils le disent bien d'ailleurs, la guerre traditionnelle, et ça c'est 30 ans de théorisation du contournement de la lutte armée, la guerre traditionnelle c'est une partie finale de ce modèle type de guerre d'un nouveau type, de guerre d'un niveau supérieur, d'ailleurs ils l'appellent comme ça, c'est la partie finale et pas obligatoire. Et vous voyez, toutes les étapes, c'est que du contournement. Toutes les étapes, c'est que du contournement de la lutte armée, et la force militaire est progressivement utilisée de manière directe, jusqu'à, il parle même de l'invasion du territoire, qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui est possible, et qui est censé détruire les derniers centres de résistance armée. Vous voyez, ils sont pas dans une logique où l'armée de terre.
Paradoxalement, ils sont pas dans une logique d'invasion. Ils sont dans une logique de basculement.
Totalement. C'est vraiment une question de. C'est pas une question de destruction des forces armées ennemies. C'est plutôt une question de présence, de basculement, d'effet psychologique de la présence des troupes et une présence encore qui n'est pas jugée obligatoire, hein, qui est si nécessaire.
Voilà. Ça se trouve, ça va tomber tout seul comme un fruit mûr.
Totalement. Et d'ailleurs, très vite, en fait, on sait que. On sait que les officiels ukrainiens ont reçu des propositions de capitulation très vite. Et donc voilà, en fait, dans l'opération militaire spéciale, dans le plan d'opération militaire spéciale, et encore plus si on ajoute la phase de dissuasion stratégique préalable, les actions indirectes étaient centrales. en vérité.
Ce qui explique aussi peut-être pourquoi l'action directe, pour le coup, enfin l'invasion directe a été si mal branlée, parce que c'était quand on mise tout sur l'action indirecte, quand ça marche pas, le plan B il est quand même nettement moins luisant.
Mais totalement. En fait, c'est juste pour commenter ça. C'est on voit aussi qu'ils ont misé sur le contournement de la lutte armée à travers cette opération militaire spéciale, à la naïveté des moyens militaires engagés. Les moyens militaires engagés étaient risiblement réduits et incohérents par rapport à l'ampleur de la tâche qui les attendait et qu'ils allaient apprendre. Même les objectifs annoncés par Poutine indiquent tout ça. Il parle de dénazification et de démilitarisation, au-delà de la dimension politique et symbolique de tout ça. Ça, on ne peut le produire qu'en contrôlant un État. On ne peut le produire que par le haut. On peut produire ça par le haut. Je ne pense pas qu'il pensait à dénazifier et à démilitariser mètre par mètre, combat après 300 000 morts peut-être dans quelques temps, je ne sais pas. Donc voilà, on voit bien que tout ça, le plan évidemment était de prendre Kiev rapidement, et le plan émane directement de la théorisation du contournement de la lutte armée de 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dessus, et c'est l'application du premier volet du contournement de la lutte armée, quand l'annexion de la Crimée et la subversion du Donbass a plutôt été une application du deuxième volet, c'est-à-dire l'évitement de la lutte armée interétatique. Et tout ça est pensé aussi de manière flexible, hein. C'est ce que j'explique dans le chapitre sur l'Ukraine, et c'est ce qui transpire avant. Ils ont une vision flexible de la confrontation, ils ne s'interdisent pas, par exemple, peut-être qu'ils ne se sont pas interdits de penser cette dissuasion stratégique précédant l'invasion, l'opération militaire spéciale, peut-être qu'ils ne s'interdisaient pas, s'ils n'avaient pas les résultats qu'ils souhaitaient, de lancer un coup de boutoir armé final et décisif. Il faut penser aussi les choses de manière flexible, parce qu'eux-mêmes le pensent de manière flexible.
Alors, du coup, maintenant, c'est le dégagement, et c'est encore moins certain que ce qu'on vient de dire, puisqu'on conjecturait déjà un peu à l'instant, mais voilà, quelles conséquences est-ce que vous pensez que vont être tirées de tout ça? Parce qu'on voit que, comme tout, on peut l'interpréter de deux manières différentes. On peut soit dire, soit c'est tout ce qu'on disait, c'est-à-dire, le contournement marche pas, ou en tout cas n'a pas marché, du coup, on va en revenir à la guerre de haute intensité, donc c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut rechanger le concept de guerre, etc. Faut revenir de cette impasse stratégique, soit au contraire, on peut faire exactement le constat diamétralement opposé de la situation actuelle, c'est on s'embourbe dans la haute intensité, donc il faut miser d'autant plus sur les stratégies indirectes et le contournement. Donc, disons, avec votre fréquentation intime de la littérature stratégique russe et du milieu stratégique russe, à votre avis, comment est-ce que ça va tourner, disons, doctrinalement et même généralement stratégiquement, cette affaire?
Mais en fait, ils se disent déjà, j'ai envie de dire, parce que j'ai produit un article pour Politique étrangère dans lequel j'évoque les premières leçons politico-stratégiques. J'accorderai une étude sur les leçons plus tactico-opérationnelles en juin. Mais là, les leçons politico-stratégiques, on observe déjà ça, évidemment. Mais attendez, on n'était pas censé contourner une armée. Et donc, forcément, la question se pose déjà, et elle se pose en des termes... là, on est dans une phase, évidemment, de discours plus restreint, d'une liberté d'expression plus restreinte, etc. Mais la question, c'est effectivement, est-ce que la violence et le côté totalement imprévu de cette guerre va les mener à la conclusion suivante? Il faut vraiment contourner la lutte armée.
Ou est-ce que... Cette fois, on le fera pour de vrai.
Cette fois, on le fera pour de vrai. Ou alors, est-ce que ils vont se dire, regardez, voilà, la guerre, en fait, c'est ça, et en fait, on a rêvé. Ça voudrait dire qu'ils sont très rationnels et qu'ils basent leur théorie et que leur culture et la théorisation de la stratégie chez les militaires russes est rationnelle et objective. Ça n'est pas le cas. Comme vous en êtes parfaitement rendu compte en lisant cet ouvrage. Ils ne comprennent pas que la théorisation du contournement de la lutte armée provient d'une vision irrationnelle déjà en elle-même. Elle est le produit parfait d'une vision irrationnelle. Elle est le diamant pur, le diamant brut d'une vision irrationnelle du monde. Et peut-être que la vision traditionnelle l'était un peu moins. Et je dis dans l'ouvrage, Moscou a non seulement surestimé en se basant sur une analyse délirante des actions occidentales et des doctrines occidentales, Moscou a non seulement surestimé la capacité des moyens non militaires et militaires indirects, donc des moyens du contournement, à atteindre des objectifs politiques décisifs, mais a surestimé également sa capacité à les mettre en œuvre efficacement. Donc il y a une double surestimation. C'est pour ça que cet ouvrage, il est conçu. Je ne pouvais pas étudier la partie théorico-militaire et stratégique sans parler de la partie culture stratégique. Tout ça est très lié et très imbriqué, et l'un est l'enfant de l'autre. Donc voilà. Et non, moi, ce que j'ai pu lire pour l'instant, c'est que effectivement, il y avait quand même des critiques sur l'idée que, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. C'était pas du tout ce qu'il faut, non seulement pour la survie.
Alors, sans même préjuger de l'issue de quoi que ce soit. C'est planté, quoi. L'idée de base, elle est plantée.
Oui. Ah oui, oui.
Et l'armée russe que Vladimir Poutine a fait sortir de terre depuis plus de 20 ans, elle est plantée aussi.
Oui.
Donc après, ils vont peut-être trouver d'autres solutions. On ne sait pas comment ça va tourner, etc. Parce que ça reste quand même un pays avec des ressources. Oui. Mais en tout cas, c'était pas le plan du chef.
Non, c'était pas du tout le plan du chef. C'était pas leur plan à eux. Et forcément, du coup, a fortiori. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme la théorisation du contournement n'est pas que le fruit d'une analyse rationnelle du monde, elle l'est en partie, attention, hein, je dis pas que c'est que du délire, évidemment non. C'est une analyse rationnelle, par exemple, de la conflictualité à l'époque de la mondialisation, à l'époque de la sanctuarisation nucléaire de l'Europe et des endroits qui veulent influencer, etc., etc. Mais c'est tout aussi cette partie rationnelle. Mais comme ça n'est pas que de la rationalité, qu'il y a beaucoup de il y a une absence d'objectivité, eh bien, ils ne vont pas se remettre en question sur ce que je viens de dire, en fait, sur le fait même que le problème, c'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de est-ce qu'on utilise la guerre traditionnelle ou pas, etc. Le problème, c'est leurs croyances. Le problème, c'est leur vision du monde. C'est les croyances qu'ils héritent de l'Empire à l'Union soviétique jusqu'à la Russie de Poutine et que lui a énormément ravivé, évidemment. Mais ce sont les croyances qui se... Et les modes de pensée, leur mode de pensée. Les lecteurs pourront voir une petite partie dans les annexes où j'évoque des faux documents qui sont savamment utilisés, des faux discours, etc. Ils nient l'autonomie de l'individu. Et tout ça crée et participe de la stratégisation, de la théorisation stratégique dans l'armée russe et donc ensuite chez les politiques russes.
Donc en gros, ils ne vont pas s'en sortir comme ça.
Non, probablement pas.
Merci beaucoup Dimitri Minik.
Merci beaucoup Alexandre.
Je rappelle donc les références de cet ouvrage paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Pensée et culture stratégique russe du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes, appréciations, commentaires et retours sur les outils notamment d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.